BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, nous serons avec le patron de Toyota en France, Didier Gambard, qui viendra nous parler de la nouvelle campagne pour la Yaris. C'est la première campagne publicitaire labellisée Origine France Garantie. Emmanuel Grossir, qui signe l'édito de la semaine, nous parlera de la tendance des formats longs dans la pub, avec un exemple très particulier. Vous allez voir, ça se passe au Brésil. Et puis, on s'intéressera à la fin des prospectus, alors que quelques 20 milliards de catalogues et autres publicités sont distribuées chaque année en France. De plus en plus de distributeurs ont décidé de s'en passer. On en parle avec Florence Chaffiotte, la directrice marketing et innovation de Monoprix, et Dan Gomplewicz, le cofondateur d'Armis. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, cette semaine, vous avez retenu l'UDA qui, un an après le lancement du programme FAIR pour une communication plus responsable, a lancé un nouveau défi aux marques.
Exactement. L'année dernière, l'Union des annonceurs avait invité les marques membres de ce programme à faire des efforts pour lutter contre les stéréotypes. 2019 sera axé sur la création d'un environnement numérique responsable. Les marques sont invitées à diffuser leur publicité sur des sites labellisés Digital Ad Trust, un label créé par l'UDA et d'autres organismes l'an dernier et attribué à des sites qui respectent un certain nombre de critères, qui ne diffusent pas des fake news ou qui respectent les données des utilisateurs par exemple. L'objectif, c'est d'enrayer la fuite des campagnes publicitaires vers les grandes plateformes numériques, Google ou Facebook notamment, favoriser les producteurs d'informations fiables et responsables et surtout renforcer la confiance des consommateurs. À ce jour, 35 entreprises se sont engagées pour le programme FAIR de l'UDA.
Et justement, c'est le nouveau président de l'UDA, Franck Gervais, qui sera l'invité d'Hebdo.com la semaine prochaine. Sur le même sujet, justement, aux États-Unis, le budget consacré à la pub en ligne bat des records, Marie.
C'est une première. Le budget alloué à la publicité en ligne aux États-Unis va dépasser cette année le budget consacré aux autres supports. C'est ce que nous révèle une étude du cabinet eMarketer. Et la tendance va s'accélérer dans les années à venir. En 2019, les dépenses publicitaires en ligne aux États-Unis devraient atteindre 129 milliards de dollars, un chiffre en hausse de 19%, alors que les dépenses publicitaires vers les supports traditionnels vont baisser, eux, de 4% à 109 milliards de dollars. Et puis, une autre tendance à noter, la montée en puissance d'Amazon dans le secteur de la pub, au détriment de Google, Microsoft ou Verizon.
Une publicité a retenu notre attention la semaine dernière. On n'a pas pu vous en parler, puisqu'on vous parlait des hits d'or, mais elle mérite quand même qu'on revienne dessus. C'est une campagne de la sécurité routière, Marie.
Il s'agit donc de la nouvelle campagne de la sécurité routière qui dévoile un film complètement bouleversant nommé La route de ma vie. Une voix off nous décrit la sienne, la route de sa vie, une route de campagne qu'il avait l'habitude de prendre et où il a différents souvenirs, ses premiers jours d'école, son premier baiser, les moments en voiture avec ses amis, une route dont il dit connaître le moindre détail jusqu'à ce moment, la fin du film, où il découvre la voiture de ses amis renversés sur le bas-côté. Le film veut sensibiliser aux dangers de la route, même à celles qui nous paraissent familières. 1900 personnes meurent chaque année sur les routes qu'elles connaissent par cœur. Une campagne orchestrée par DDB Paris.
Et puis sur un autre ton, côté créa, Saint-Maclou fait son grand retour en télé après 5 ans de silence. Marie, le résultat nous a fait plutôt rire quand même.
Avec une publicité pleine d'humour qui met en scène un père de famille dans plusieurs situations complètement improbables. Par exemple, face à une jeune femme qui est sur le point d'accoucher dans un avion, eh bien, il lui déclare très sereinement « Ça va aller, j'ai vu un tuto ». En pleine forêt, quand il se retrouve nez à nez avec un cobra, eh bien, il déclare à son ami de façon tout à fait sereine, encore une fois, « Ça va aller, j'ai vu un tuto ». En revanche, quand sa femme le voit regarder un tuto sur la pose de parquet, elle refuse de prendre des risques. Ils feront appel à des poseurs professionnels de Saint-Maclou parce qu'un tuto ne fera jamais de vous un pro, conclut la publicité. Une campagne imaginée par Proximity et by BBDO.
Et puis le bad buzz de la semaine, il est signé Burberry, Marie.
Burberry contraint de retirer un sweatshirt de sa collection automne-hiver. Il a été présenté le week-end dernier lors d'un défilé à la Fashion Week de Londres. Il s'agissait d'un sweatshirt marron avec un nœud coulant pour fermer la capuche. Devant le tollé sur les réseaux sociaux accusant Burberry de pousser au suicide, la marque a dû présenter ses excuses et faire machine arrière.
Frédéric, c'est un vrai bad buzz à votre avis ou c'est savamment orchestré?
Oh, c'est une bonne question. Ils ont peut-être pas mal regardé le tuto, en l'occurrence, du buzz, parce que un bad buzz comme ça, si ça a été orchestré, c'était de toute manière pas une bonne idée du tout, je pense.
Merci Marie Valogne, on vous retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Cette semaine, nous recevons Didier Gambard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Toyota en France. Vous lancez la semaine prochaine une nouvelle campagne pour les 20 ans de la Yaris. Vous avez décidé non pas de mettre vraiment l'accent sur la voiture dans cette campagne, mais plus sur son label, puisque c'était la première voiture labellisée Origine France Garantie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
On a fait ce choix parce que la position et le caractère de la Yaris est innovante à deux niveaux. On a souvent communiqué sur le côté première citadine hybride, et ça maintenant on est bien installé. Mais là on voulait rappeler, comme on l'a fait régulièrement, l'engagement citoyen avec l'ancrage de Toyota en France. Et finalement, lors du brainstorming qu'on a eu avec les équipes de communication, on s'est dit, mais plutôt que faire juste du Made in France, on a été la première voiture en 2012 à bénéficier de cette Origine France garantie, cette certification.
C'était presque le début du lancement du label.
C'était le début. On a fait les toutes premières, on était la première dans l'automobile, et on s'est dit, mais finalement, on pourrait donner à cette campagne une dimension un peu virale en allant au-delà des frontières de la marque et de l'automobile, en y associant un certain nombre d'entreprises, celles qui voudront nous rejoindre dans cette aventure de l'Origine France garantie.
Frédéric.
C'est en effet assez original. Et en fait, la Yaris, c'est l'ambassadeur de Toyota en France, c'est ça?
Tout à fait, puisque avec la Yaris, elle a été pendant cette année la voiture la plus produite en France, et c'est vraiment l'idée de on est citoyen, on produit là où on vend, et aussi on met en valeur toute la valeur ajoutée, et c'est d'ailleurs aussi le sens de la certification Origine France garantie, de la valeur ajoutée qui est mise dans la voiture et dans la production locale.
D'où donc, pardon, l'idée de cette campagne qui est 100% elle aussi Origine France garantie, une campagne signée par l'agence The and Partnership en France. On voit tout de suite un extrait.
Bonjour, je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît?
Craquante, rustique, multigraine.
Avoir 25 types de baguettes différentes, c'est très français.
Sinon, j'ai aussi les traditions, les sans gluten.
C'est une chocolatine.
Pas au chocolat.
Chocolatine.
Pas au chocolat.
Ça aussi, c'est très français. Remettre le slip à la mode, c'est très français.
On se ferait pas un petit resto?
Rajouter petit devant tout et n'importe quoi pour rendre ça plus sympathique, c'est très français. Choisir une Yaris hybride, parce que l'essence, c'est toujours trop cher. C'est très français.
Bon, alors c'est donc un film pour Toyota, mais c'est aussi un film de marque. Vous l'avez dit vous-même, vous avez travaillé avec d'autres entreprises qui vous ont rejoint, donc des entreprises, elles aussi, bien évidemment, françaises. Avec quelles marques est-ce que vous avez travaillé et est-ce qu'elles ont accepté assez vite de vous rejoindre là-dessus?
Très vite, et grâce au partenariat avec l'association Origine France et Pro France, on a pu être en relation avec plus de 65 entreprises. On collaborait à la réalisation de ce clip, de ce film publicitaire. Donc tous les décors, tous les produits qu'on voit à l'intérieur sont des produits Origine France garantis. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette campagne, c'est qu'au-delà de l'aspect télévision et publicitaire, derrière on souhaite également avoir une espèce de campagne virale où on associera notre réseau de 260 points de vente, et tout au long du mois d'avril, avec les entreprises Origine France garantie de leur zone de chalandise, ils pourront s'appuyer sur cette campagne qui est une espèce de fondation à, comme ça, mettre en avant et créer du lien entre des entreprises qui partagent les mêmes valeurs et cet attachement à la France.
Et de quelle sorte de lien est-ce que vous envisagez là?
Alors là, c'est les valeurs de on produit en France, on recherche et on crée de l'innovation en France, on est éco-responsable parce qu'on réduit, par exemple, nous concernant les temps de transport, donc l'empreinte CO2 est moins forte. D'autres partenaires travaillent sur, par exemple, du coton recyclé pour fabriquer des jeans en France et complètement éco-responsable. Donc c'est ce territoire commun de la responsabilité et de l'éco-responsabilité qu'on mettra en scène. Et puis c'est l'idée aussi de la proximité, en fait, parce que le commerce est une chose assez simple, en fait, c'est se faire connaître, mais aussi partager des valeurs et puis créer de la proximité avec tous ces entreprises qui localement vont pouvoir mettre des moyens de visibilité ensemble et puis raconter une histoire ensemble.
Et qu'est-ce qu'en pense le consommateur? Parce que, ok, il y a la Yaris, elle est produite en France, très bien. Puis il y a tout le reste de la gamme qui est pas produit en France. C'est quoi la perception? Est-ce qu'on vient acheter une Yaris parce qu'elle est française, au même titre qu'une Peugeot ou qu'une Renault? Et quand vous vendez, je sais pas, une Prius ou autre chose, Comment est-ce que ça se passe à ce point de vue-là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de confusion de...
Non, je pense que c'est très clair dans l'esprit. On vient d'abord à Toyota, surtout depuis 2-3 ans, pour la technologie hybride électrique, et qui depuis le diesel bashing et le diesel gate, lui donne une crédibilité et une pertinence toute particulière. S'agissant de la mise en avant de la France, tout d'abord, les productions de Toyota vendues en France sont à 75% issues des usines européennes. D'accord. Donc c'est pas si loin que ça. Et puis le Origine France Garantie sur la Yaris est une espèce de label qui renforce le côté sympathique et qui n'est pas un critère suffisant mais additionnel pour qu'en phase finale de décision d'achat, on se dit ben tiens, j'ai en plus l'impression de faire une bonne action citoyenne. Donc on vient à nous par la technologie, par le produit, par la compétitivité des offres qui est un must, on va dire, et ensuite on regarde la dimension un peu corporate avec ses valeurs environnementales ou d'engagement citoyen, et ça fait la différence et ça contribue à la bonne perception, en tout cas on l'espère, de la marque.
Et sur le plan industriel, comment ça se traduit en termes d'emploi, de nombre d'usines, je sais pas?
Alors en termes industriels, donc c'est une usine qui est donc basée à Valenciennes. On a annoncé d'ailleurs en janvier 2018, ça avait fait la visite du président Macron, une tranche d'investissement nouvelle de 300 millions d'euros. Pour préparer à moderniser l'usine, à monter en compétences et à monter aussi en capacité, puisqu'on va atteindre les 300 000 unités produites en France à horizon 2020. Donc au total, en France, Toyota, c'est 9 000 emplois directs entre l'usine, la production et la distribution. Et c'est également avec cette belle success story de la Yaris, un avenir avec du développement pour toujours renforcer la position de Toyota en France.
Il y a une partie de cette production qui est vendue à l'export?
Tout à fait, puisque, si vous me permettez d'arrondir, l'usine a produit globalement 250 000 unités. Le marché français en absorbe à peu près 15%. Et tout le reste sert à la contribution du commerce extérieur de la France, puisque principalement exporté en Europe, sur les différents marchés sur lesquels on opère, et quelques unités même aux États-Unis.
Donc c'est pour ça qu'elle chantait déjà la Marseillaise il y a quelques années. La francité de la Yaris, vous appuyez dessus régulièrement.
On a beaucoup travaillé. Elle a supporté l'équipe de France de football, la Yaris. Elle a supporté l'équipe de France de rugby. Et puis elle a chanté la Marseillaise. Et maintenant, elle rappelle d'une manière un peu fraîche et nouvelle son ancrage et puis son attachement à l'Origine France Garantie.
Alors vous avez deux modèles aujourd'hui labellisés Origine France Garantie. Vous avez la Yaris donc et la Pro Ace. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans les prochaines années?
Je suis pas habilité à commenter les futurs plans et vous faire de grandes révélations. Je sais que vous seriez friande de ça. Mais en l'occurrence, c'est pas d'actualité, mais j'espère être un jour réinvité sur votre plateau pour pouvoir vous en dire plus.
Merci beaucoup Didier Gambin, on n'y manquera pas, c'est noté. Président donc de Toyota en France.
BFM Business. Hebdo.com. L'édito.
Et cette semaine, nous accueillons Emmanuel Grossir de la rédaction de CB News. Bonjour, bonjour Emmanuel. Alors, vous vous intéressez, vous, cette semaine au formalon?
Absolument, on se téléporte au Brésil pour parler de la tendance au formalon publicitaire avec une pub parfaitement délirante pour une marque que vous connaissez. Pour sa créativité, il s'agit de Old Spice. Et pour bien savourer son dernier fait d'arme, on va revenir en 2010 quand la marque de gel douche, qui est une marque de grande conso sur le marché américain, avait lancé un film qui dépasse aujourd'hui les 60 millions de vues, ce qui est considérable.
Ouais.
Beaucoup d'humour et de dérision dans cette saga publicitaire qui, cette fois, ajoute une dimension événementielle un peu dingue pour son nouveau lancement. D'abord sur le fond, le nouveau spot sans fin qui imagine un film dans le film façon Inception,
ouais,
est totalement extravagant. Et puis ensuite, sur la forme, il a été diffusé durant 14 heures sur une chaîne de télé brésilienne pour célébrer l'effet longue durée du déodorant en question. Deuxième record, le sport est désormais visible sur le premier site dédié à la diffusion exclusive d'une publicité.
Est-ce qu'on a d'autres exemples de formats très longs comme celui-ci?
Bon, alors, à ce point, non, c'est rarissime, mais de plus en plus d'annonceurs misent sur des formats longs, certes dans des proportions plus raisonnables, mais enfin, 3 minutes en télé, c'est quand même énorme.
Ouais.
Je pense en particulier aux enseignes de grande distribution qui se sont emparées du principe depuis 2 ans, comme Intermarché, L'Amour, tellement joli, premier d'une longue série où un garçon apprend à manger sainement pour plaire à la charmante hôtesse de caisse. Et comme Super U également, qui a illustré sa proximité avec un joli conte de Noël. Et ou encore Monoprix, qui a célébré dernièrement son service de livraison à domicile avec ce film, élu meilleure campagne de l'année 2018 par l'excellent magazine CB News.
Évidemment.
Je connais pas, mais on a... Pourquoi faire des films aussi longs?
Bien, c'est simple, en fait, avec un long format en pub, on a le temps de raconter une vraie histoire, on a le temps de faire un mini-métrage d'une certaine façon, de faire passer de l'émotion, d'installer une ambiance, et par ce biais, du coup, de créer un lien privilégié avec le spectateur. Et ces films très réussis bénéficient logiquement d'un budget de production important, et le plus souvent, ils seront diffusés en télé qu'une seule fois ou une petite poignée de fois. Mais le fait d'événementialiser leur sortie va garantir une viralité, puisque on partage évidemment ce qu'on aime, donc, et c'est bien l'enjeu de la pub aujourd'hui. Et autre bénéfice, on investit un peu en production, mais ensuite on va faire de grosses économies sur l'achat d'espace. Pour rappel, le coût de diffusion d'un spot de 30 secondes un dimanche soir sur TF1 est de l'ordre de 80 000 euros, et ça peut même monter facilement à 150 000 euros, ce qui est considérable aussi en fonction de la programmation. Car oui, petite parenthèse, l'effet film du dimanche soir, ça marche toujours, en dépit des VOD et autres Netflix.
Et c'est vrai que à chaque fois, ça a été des cartons, là, les films dont nous a parlé Emmanuel.
Absolument.
Frédéric, moi, j'attends le cru de 2019, là.
Ça s'annonce peut-être pas si mal que ça.
Et on suivra ça, bien évidemment. Merci, Emmanuel.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et aujourd'hui, dans le Zoom, on s'intéresse à la fin du prospectus. Monoprix, Leclerc, d'autres distributeurs ont décidé d'arrêter de remplir nos boîtes aux lettres. Les Français reçoivent chaque mois en moyenne 2 kilos de prospectus, dont 80 à 90% sont jetés à la poubelle sans même avoir été lus. Alors, quelles sont les alternatives aussi à ces prospectus? On s'est posé la question avec Frédéric et on en parle aujourd'hui avec Florence Chaffiotte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice marketing et innovation de Monoprix, et Dan Gomplevitz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur d'Armis. Alors, chez Monoprix, Florence Chaffiotte, vous avez décidé d'arrêter les prospectus. Pour quelles raisons? Est-ce que ce sont simplement des raisons écologiques?
Alors, ce sont d'abord des raisons écologiques. C'est vrai que la réflexion a été la suivante. On s'est dit finalement, quelle est la posture de responsabilité d'une enseigne comme Monoprix, et qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour prendre nos responsabilités par rapport à un geste du quotidien qui est celui de je prends mon catalogue et la plupart du temps je le jette.
Mm-hmm.
Et donc on a utilisé l'année 2018 pour faire un certain nombre de tests, et notamment d'arrêter la distribution du catalogue sur quelques zones d'abord. Et puis ces tests nous ont confortés dans l'idée de se dire fin 2018, on est prêt. Et donc début 2019, nous avons totalement arrêté la distribution.
Ça veut dire que quand vous avez arrêté les prospectus dans ces zones test, vous n'avez pas vu de différence au niveau de la fréquentation des achats dans vos magasins?
On a vu assez peu de différence, très honnêtement. On a vu à la marge sur certaines villes quelques sujets de trafic, mais très objectivement, pas suffisant pour hésiter à y aller. C'est-à-dire que peut-être quand même juste pour vous donner ce que ça veut dire, hein, en
ouais.
termes de, on parle aujourd'hui d'arrêter 30 millions de distributions de catalogues par an, donc 30 millions d'exemplaires, ce qui correspond à 2400 tonnes de papier.
Ah ouais.
Donc vous parliez de 2 kilos par client, c'est 2400 tonnes pour Monoprix, et c'est quand même ce qui a très clairement drivé notre décision.
Frédéric.
Mais j'ai envie de poser la question, pourquoi est-ce que seulement maintenant? Si
vous avez raison. Le simplement, je pense que le moment est le bon.
On le savait tous.
Alors on le savait tous. Je pense simplement que les alternatives, en revanche, n'étaient pas mûres. Et les alternatives, type celle d'Armis, type celle de toutes les entreprises qui aujourd'hui nous ont aidés dans la digitalisation de nos promotions et de nos catalogues, n'étaient pas mûres pour permettre ce switch qui aujourd'hui est vraiment faisable.
Justement, chez Armis, vous développez ces fameuses alternatives. Quelles sont-elles, en fait? Parce qu'on a du mal à les voir.
Le paysage du retail français, ça fait 10 ans qu'il teste finalement plein de choses pour digitaliser le catalogue. Le premier qui l'a testé, c'était Michel-Édouard Leclerc. Leclerc en 2010 qui avait crié 2020 zéro prospectus. Et donc tous les retailers, ils ont déjà même fait des PDF de leurs prospectus.
Mais c'est pas toujours très ergonomique, si je puis me permettre.
Et hein. ça a pas beaucoup marché, mais c'est la première génération. La deuxième génération, ça a été des agrégateurs de ces catalogues qui ont créé finalement des carrefours d'audience comme Bonial, Pubeco, Tiendeo, donc il y en a plusieurs qui ont réussi à recruter des super promophiles qui sont vraiment extrêmement enclins à regarder toutes les promos et à fouiller. La troisième génération, c'est en fait les plateformes technologiques elles-mêmes, donc des Google, des Facebook, des bannières, qui ont vu que les ventes e-commerce commençaient à stagner. Hein. On est maintenant à plus décroissance à deux chiffres, donc ça y est, il faut aller voir ailleurs, il faut retrouver les retailers. Donc ils ont développé des outils comme Google et Facebook pour permettre finalement aux retail de se les approprier. Et nous, on est cette quatrième génération, c'est-à-dire les magasins vont réagir très différemment. Il faut savoir marier Google, Facebook et les bannières, parce que Google peut pas parler des gens sur Facebook, Facebook peut pas parler des gens sur Google. Donc nous, on crée cette plateforme console, mise dans les mains des équipes de Florence, pour savoir arbitrer au local les différentes forces digitales pour les magasins. Et donc nous, on est vraiment ce quatrième acteur, donc au bout de 8 ans. Et en effet, je rejoins Florence dans ta réponse, c'est qu'en fait la technologie n'était pas prête. Il a fallu que les plateformes GAFA évoluent dans leur façon même de cibler les clients autour des magasins.
D'accord. Et on dit la même chose sur le digital que sur le papier. Sur le papier, on recevait en effet des catalogues avec des grosses photos et des prix énormes en disant voilà. Et ça revient au même sur le digital, ou est-ce qu'il y a une expression qui est différente?
Alors la nature de l'offre est la même, oui. L'expression est différente, vous avez raison, c'est-à-dire qu'elle est évidemment adaptée à une navigation digitale. Ce qui est différent également, c'est ce que aujourd'hui on cherche tous à faire, c'est d'un catalogue qui contient entre 150 et 300 offres différentes. Ce que les distributeurs cherchent à faire, c'est de vous exposer à vous les 10 ou les 15 offres pour lesquelles vous serez les plus appétants et qui ne seront pas en l'occurrence les mêmes que celles que vous recevrez vous. Et ça c'est peut-être le temps 5 dont on parlait juste avant l'émission, qui vers lequel on tend tous. Ouais.
Mais justement, cher Armis, comment est-ce que vous travaillez là-dessus? Parce qu'il faudrait que Frédéric et moi on reçoive pas les mêmes promos et qu'en plus, en fonction des endroits où on est, ce soit totalement adapté.
En fait, déjà, c'est ce qui est exactement le cas. Il y a vraiment finalement deux axes qu'il faut regarder dans les expressions marketing qui existent aujourd'hui. Il y a soit la communication de masse qui a été uniquement à l'origine le catalogue, ou la logique vraiment ultra personnalisée d'email ou de coupons que je pourrais vous donner. Armis se situe déjà au milieu, c'est-à-dire qu'on sait faire de la communication de masse au local. Et en effet, après, on a des capacités finalement de rajouter du comportemental, ce que tu dis, Florence, c'est-à-dire que si, par exemple, un Danone travaille avec nous et que on a envie de cibler des consommateurs pour Blédina, donc avec des enfants, par exemple, on a capacité à l'injecter.
Et comment vous faites? Ça vient de la carte fidélité de Monoprix, ces données?
Donc, je dis Armis, mais tout le marché peut le faire. C'est en effet les données d'observation de Monoprix qui sont après injectées dans les plateformes Google, Facebook, bannières, qui nous permettent de faire ce sur-ciblage comportemental et en effet de vous donner les offres qui vous sont les plus cohérentes. Mais déjà, de se dire que les magasins réagissent à des choses différentes et donc que j'arrête de pousser la même offre et le même prospectus, mais qui va être vraiment ciblé et spécifique magasin par magasin dans le choix des produits, dans le choix est-ce que je parle plus à 7h parce que c'est des gens qui se connectent à 7h ou à 20h parce qu'ils rentrent, etc. Cette capacité d'adaptation, c'est quelque chose de très nouveau sur le marché.
Et chez Monoprix, ça veut dire que le papier c'est complètement fini à 100% ou ça veut dire que quand même il reste une partie, je sais pas moi, de mailing plus ciblé, de choses comme ça qui existent encore? Parce que tout le monde n'est pas, j'imagine qu'il y a une cible qui n'est pas encore ultra connectée.
Ouais. on est de toute façon pas encore sur le zéro papier, on est très clairement sur le zéro distribution, ça c'est derrière nous. Le zéro papier est pas encore complètement là à deux niveaux. On a encore des catalogues à l'entrée des magasins pour justement, vous avez raison, raison, une certaine frange de la population qui vraiment a à cœur de prendre le dépliant quand il arrive dans le magasin et de faire son parcours d'achat avec. Et on voit plein de gens qui le prennent et qui se disent ouais, j'ai envie de ça et qui jalonnent son parcours d'achat avec ça. Mm-hmm. Et le deuxième sujet, c'est effectivement celui des mailings, vous avez raison, sur lequel on continue à avoir des mailings papier sur ce qu'on appelle le segment de nos feed plus, c'est nos meilleurs clients qui sont encore très appétants à des coupons ultra personnalisés, où là pour le coup vous allez recevoir une planche de coupons pour le mois qui est très différente de la vôtre ou très différente de la mienne parce qu'elle est totalement fonction de votre comportement d'achat.
Juste rapidement une question sur le prix, ça coûte moins cher de passer par le digital ?
Aujourd'hui on observe que le contact digital coûte entre 2 à 3 fois moins cher que le contact papier. Et en effet l'enjeu vraiment de ce marché n'est pas de basculer à 100% digital, hein. Il y aura toujours du papier qui va exister, un papier plus premium déjà. Mmh. Et on voit, pour les enseignes avec lesquelles on travaille, l'enjeu est la complémentarité. En effet, pour des enseignes monoprix très urbaines, où le papier a du mal à passer, et donc là, c'était...
Évident.
Là, c'est presque évident, comme vous dites. Vous parlez à d'autres enseignes avec des formats plus provinciaux et des formats plus mainstream, entre guillemets. Bah là, en effet, l'arrêt du papier pose vraiment une question. Et donc là, l'enjeu que nous, on traite avec ces clients, très différent hein, de l'enjeu qu'on traite avec Monoprix, c'est comment leur apprendre à faire une bascule. C'est-à-dire de savoir les endroits où le papier va coûter plus cher que le digital et comment trouver ces zones finalement où le digital va coûter moins cher. Et donc en effet, le zéro papier de 2020, c'est déjà moins de papier ou du papier plus premium et un engagement des enseignes pour vraiment.
Il y a encore du chemin à faire, quoi. Merci beaucoup Dan Komplevitch. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Armis, Florence Chaffiot, directrice marketing et innovation de Monoprix. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdo.com sur BFM Business.